franceinter.fr.
Alors que la France est renvoyée devant la Cour de justice de l'Union européenne pour non-respect des normes de qualité de l'air, on s'intéresse à l'impact de la pollution sur les enfants à naître aujourd'hui à la Une de la Science.
On connaissait l'impact écologique de la pollution de l'air, on en connaît désormais le coût. Près de 100 milliards d'euros chaque année en France, un chiffre qui compile baisse de la productivité, du rendement, perte de biodiversité et surtout dépenses de santé. La pollution de l'air est responsable de 42 000 décès prématurés chaque année en France et de 650 000 journées d'arrêt de travail.
Voilà, le coût de la pollution de l'air, c'était extrait d'un document d'Itélé en 2015 et un nouveau chiffre s'ajoute cette semaine à ces estimations. Une étude de l'INSERM qui estime à 1,2 milliard d'euros chaque année les frais de santé liés à la pollution sur la grossesse des Françaises. Et pour comprendre ce chiffre et l'impact de la pollution sur la santé des plus jeunes, on accueille donc notre invité Axel.
Oui Mathieu, nous sommes avec celle qui a dirigé ce travail, Isabella Hennessy Maizano. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste et directrice de recherche à l'INSERM. Alors, quels sont les effets connus aujourd'hui de la pollution sur la grossesse qui vous permettent d'avancer ce chiffre, ce surcoût de 1,2 milliard en dépenses de santé?
Il y a plusieurs effets qui ont été démontrés, mais notre travail a pris en compte l'hypotrophie, c'est-à-dire le fait d'avoir des bébés à la naissance qui pèsent moins que 2,5 kg et qui vont avoir des problèmes un peu plus tard dans la vie car ils ont des risques accrus de souffrir certaines pathologies. Mais le travail à cibler, disons vraiment, la naissance et le suivi des enfants hypotrophes en termes de handicap et puis de déficience intellectuelle.
Ça veut dire que vous avez suivi l'impact de cette pollution sur toute leur vie à venir, c'est ça?
Disons, c'est une estimation, hein, c'est très compliqué de suivre ces enfants. Ils sont partout en France. En fait, il n'y en a pas beaucoup, mais le coût, comme vous l'avez annoncé, il est très important. Nous avons estimé qu'il y a environ 8000 enfants qui naissent hypotrophes avec un petit poids en raison de l'exposition de la mère pendant la grossesse. Et parmi ceux-là, il y en a plus ou moins 2000 qui vont avoir une déficience intellectuelle importante qui nécessite un suivi.
Quels sont les polluants qui sont responsables de ces hypotrophies?
Dans notre étude, nous avons étudié les particules fines, c'est-à-dire les particules qui ont un diamètre de 2,5 microns qui pénètrent dans les voies aériennes et qui descendent jusqu'à ensuite au sang et même à des organes. Dans le cas des enfants hypotrophes, le mécanisme est que, en fait, il y a des problèmes placentaires. Hein. Il y a un placenta qui ne communique pas bien entre la mère et l'enfant. Et de ce fait, il y a des enfants qui se développent moins bien que les autres.
Ouais, mais comment on arrive à faire le lien direct entre la pollution de l'air et l'état de santé de ces enfants à la naissance alors? Parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte.
Alors bon, ça c'est le résultat d'une étude européenne qui s'appelle ESCAPE, qui avait demandé à tous les pays qui disposaient de cohortes de nouveau-nés, c'est-à-dire d'enquêtes épidémiologiques où on a eu la mère, on a recruté la mère pendant la grossesse et on l'a suivie dans le temps, de fournir des données sur l'accouchement. Disons, c'est des données médicales, en fait, qu'on a eues à partir des hôpitaux et des naissances. Et puis, il y a eu un suivi des enfants. Et cette étude a permis, où il y a des données vraiment individuelles, donc on se tourne, a permis d'attribuer à la mère son exposition pendant la grossesse en faisant des mesures ou des modèles et puis de suivre l'enfant dans le temps et notamment pour ceux qui nous intéressaient, c'était vraiment le résultat à la naissance. Est-ce que les mamans qui étaient dans des zones polluées avaient des enfants plus légers? Eh bien, c'est ça qu'on a vu. Et l'étude a aussi permis de tenir compte d'autres facteurs de risque du petit poids de l'enfant. On sait très bien que si la mère fume trop ou la mère boit, elle risque d'avoir un enfant qui a un petit poids. Mais l'étude était tellement importante, tellement de mamans, qu'on a pu isoler les mamans qui n'avaient pas ces facteurs de risque pour pouvoir ensuite établir le rôle propre de la pollution.
Isabella Hennessy Maizano, il y a un autre chiffre assez intriguant dans votre travail, c'est cette perte estimée d'un point de QI pour ces enfants. Et là aussi, ça représente une perte financière. Alors, c'est comme ça qu'il faut le voir ?
Oui, tout à fait. Il y a, en fait, on a estimé, c'est pas nous, hein, d'autres économistes, combien ça coûte la perte d'emploi de QI. 13 000 euros, hein, c'est très chiffré, parce que on sait qu'il y a moins de productivité et d'autres problèmes. Et dans cette étude, en voyant les enfants les plus graves, les plus atteints, on a vu qu'il y avait environ 80 000 points de QI perdus. Et voilà, en faisant la somme, alors, il faut être vraiment très prudent. Ce sont des moyennes, ce sont des estimations, mais ça donne une idée du problème social et sociétal associé.
Il y a certainement des futurs parents qui écoutent la radio à cette heure-là. Quels sont les conseils que vous pourriez leur donner? Parce que je pense qu'ils sont en train de s'inquiéter là.
Moi, je conseille aux femmes enceintes d'éviter de marcher à côté d'un camion en diesel, d'éviter autant que possible en préférant des rues parallèles, de chemins parallèles, d'éviter d'être exposées directement, parce qu'il y a aussi d'autres données très inquiétantes sur les expositions de la mère pendant la grossesse, notamment en termes de système immunitaire de l'enfant. On avait publié ça il y a quelques temps. Et donc, il faut vraiment se protéger. Et la chose la plus simple à faire, hein, c'est ça.
Les masques qu'on voit apparaître de plus en plus dans les grandes villes, est-ce que c'est efficace?
Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de données scientifiques qui montrent que ces masques marchent. Ces masques n'ont pas fait leur preuve. Moi, personnellement, j'en ai vu beaucoup. J'ai essayé de les utiliser et je ne suis pas en mesure.
Puis tout dépend des masques, parce qu'on voit simplement un tissu, ça ne sert absolument à rien.
Oui.
Il y a des choses beaucoup plus sophistiquées pour filtrer justement les particules.
Oui, parce qu'en plus, les particules, on dit les fines, mais il y a aussi toutes celles qui sont plus petites. Donc, les ultrafines, les nanos, etc.
Bah, on va finir sur l'introduction. Hier, la Commission européenne a renvoyé la France devant la Cour de justice pour non-respect des normes de qualité de l'air. Votre regard de chercheur sur cette actualité ? Ça fait longtemps que ça dure.
Ça fait trop longtemps que ça dure, oui. Et qu'il faut faire quelque chose pour réduire l'exposition des gens, parce qu'il y a des décès, il y a des malades, et voilà. Et on voit aussi qu'il y a une perte un appauvrissement de la société en termes intellectuels. Et je trouve que ça fait beaucoup.
Voilà, nouvelle étude INSERM donc sur ce lien entre la pollution de l'air et la santé des plus jeunes. Isabella Anessi-Maïsano, merci beaucoup d'être venue en parler aujourd'hui.
C'est moi.
Au micro de la tête au carré. Merci Axel, à lundi.
Bon week-end.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le mystère des lézards au sang vert de Nouvelle-Guinée continue d'intriguer des chercheurs de l'université de Louisiane. La couleur de leur sang a été récemment expliquée par la présence d'un pigment toxique appelé biliverdine. La quantité de toxines mesurée dans leur sang est 40 fois supérieure à une dose mortelle pour l'homme. Si pour l'heure la fonction de ce pigment dans le métabolisme du lézard reste incertaine, les scientifiques étudient ses effets potentiels sur la malaria et sur d'autres parasites qui infectent l'animal. L'une des toutes premières galaxies formées dans l'univers a été découverte par une équipe française de l'université Paul Sabatier à Toulouse, et les scientifiques ont estimé sa naissance à 250 millions d'années après le Big Bang, ce qui est très très tôt dans l'histoire de l'univers. Si l'hypothèse est confirmée, les résultats de cette étude publiée hier dans la revue Nature pourraient remettre en question les modèles actuels de formation des premières galaxies. Et puis pour la première fois, des physiciens américains ont réussi à mesurer la pression qui s'exerce au centre des atomes, précisément à l'intérieur d'un proton. Cette pression est de 100 décillions de pascal ou 10 puissance 35, ce qui est équivalent à 10 fois la pression existante au cœur d'une étoile à neutrons. Cette avancée scientifique et technique pourrait nous en apprendre plus sur les interactions fortes qui lient les constituants des protons eux-mêmes, les fameux quarks.